Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 12 janvier 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, Somalie, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 10 morts à Mogadiscio. Après les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, les voyageurs transfrontaliers laissés pour compte à Bamako. En Afrique du Sud, 17 personnes ont été brûlées vives dans un minibus taxi après une collision. Le Covid-19 poursuit sa courbe ascendante. La pandémie a fait au moins 5,5 millions de morts dans le monde depuis son apparition. Cannes 2021 au Cameroun, le Mali remporte son duel contre la Tunisie 1-0 dans le groupe F qui ouvre son compteur aujourd'hui. Emmanuel Gélentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Une fin de match à polémique dans la poule F lors du derby Tunisie-Mali, remporté par la sélection malienne. En cause, la décision de l'arbitre central zambien, Jenny Sikazwe, de ne pas faire jouer le temps additionnel. La Tunisie est la troisième équipe d'Afrique du Nord à rater son entrée dans la compétition. Retrouvons Emmanuel Gélentap à Yaoundé pour le journal de la CAN.
Bonjour, bonjour à tous. L'Algérie et l'Égypte ont ressenti les premières secousses de la CAN à des degrés divers. Secousses de faible amplitude pour l'Algérie, qui a concédé un match nul vierge face à la Sierra Leone, et secousses de forte amplitude pour l'Égypte de Mohamed Salah, défaite par un Nigeria impressionnant. Le choc du groupe D entre l'Égypte et le Nigeria s'est soldé sur une précieuse victoire des Super Eagles. Le deuxième match a mis aux prises le Soudan et la Gambie. Le point dans cette poule avec Ahmedine Sy depuis Bafoussam.
Le Nigeria a remporté le choc du groupe D en dominant logiquement l'Égypte sur le score 2-0 grâce à un très joli but de Samuel en première période. L'attaquant de Villarreal a offert la victoire à son équipe en inscrivant un super but ensuite à un enchaînement contrôle de la cuisse et reprise de volet en pleine lucarne. Les Super Eagles, troisième de la dernière CAN, ont maîtrisé cette rencontre de bout à bout. Ils ont même survolé les pyramides avec aisance, maître du ballon, bien plus puissant physiquement et incisif. Le Nigeria a produit la meilleure impression des prétendants au titre dans le match le plus intéressant depuis le début de la compétition, malgré une dernière demi-heure plus terne. Quant à l'Égypte, c'est une nouvelle désillusion après le cauchemar de l'élimination à domicile dès les huitièmes de finale par l'Afrique du Sud lors de la dernière édition. Sachez que l'autre match du groupe entre la Guinée-Bissau et le Soudan s'est soldé par un nul vierge, un match nul qui profite à l'équipe du Nigeria qui s'installe au fauteuil de leader du groupe D avec 3 points. Les Nigérians sont talonnés de très près par la Guinée-Bissau et le Soudan. L'Égypte ferme la marche avec 0 point. Ahmedine Sy pour la VOA Afrique.
Pour cette édition du journal de la CAN, Jules Valentin Ngoué, depuis Libreville, nous attend avec son coup de sifflet.
Bonjour. Au bout de la troisième sortie de cette première journée, les matchs passent et les tendances demeurent. Les scores sont étriqués. Les petits tétillent les grands et les favoris piétinent, à l'exemple de l'Algérie qui, malgré sa pléiade de vedettes, cafouille son football et bute sur une courageuse équipe de Sierra Leone, héroïque en défense. Seul le Nigeria impressionne de facilité et marque les esprits dans le classique des marathoniens de la CAN en tournant en bourrique l'Égypte de Mohamed Salah, qui par miracle a évité la correctionnelle en première mi-temps, où le seul but du virevoltant Kelechi Iheanacho, inscrit à la 30e minute, ne traduit pas le véritable rapport de force de la soirée dans ce qui apparaît déjà comme le meilleur match depuis le début de la compétition. Ce mercredi, la revue des effectifs va s'achever sur un autre grand classique entre deux habitués aux places d'honneur, la Tunisie et le Mali, dont la parfaite opposition de style a toujours produit des étincelles. La dernière manche de cette journée permettra alors d'évaluer l'autre prétendant attendu, la Côte d'Ivoire, à qui la qualité de la production collective a souvent réussi. Tandis que la Mauritanie, la Gambie et la Guinée équatoriale devront justifier leur présence au Cameroun avec pour objectif d'atteindre l'acte 2 du tournoi. Que la fête continue.
Et la fête continue bel et bien ce mercredi avec la poule F logée à Limbeboya. La Tunisie affronte en début d'après-midi le Mali, tandis que la Mauritanie sera opposée à la Gambie, qui participe à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfield, dit que son équipe va jouer sans complexe.
On a prouvé les dernières trois années qu'on peut être compétitif. On a joué deux matchs nuls dans la qualification avant contre l'Algérie. On a gagné au Maroc, match amicaux contre les premières équipes du Maroc. Gagné contre Togo, Gabon, Guinée-Conakry, Congo-Brazzaville, Angola. Ça, on n'a pas peur. Mais aussi, la situation de Covid peut décider beaucoup. On a un groupe fort, mais naturellement, quand il y a un des meilleurs joueurs pas disponible, ça peut être un problème. Mais pour le moment, on a fait le test hier. Tous les joueurs ici sont négatifs.
Tunisie, Mali et Mauritanie-Gambie vont se disputer sous haute sécurité à Limbé, dans la région du sud-ouest, en zone anglophone, où des séparatistes armés mènent sporadiquement des attaques contre des civils. Au stade de Japoma, à Douala, dans le groupe E, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire jouent en nocturne ce mercredi et vont sanctionner la première journée de la CAN. C'est tout pour le journal de la CAN. Amédine Si, Emmanuel Jeunetap, VOA Afrique.
À présent, à la suite de ce journal, en Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées et 9 blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée survenu au sud de la capitale Mogadiscio. Claire Morin-Gibou.
L'attaque a visé un convoi de sécurité du gouvernement sur une route menant à l'aéroport de la capitale Mogadiscio. Une énorme explosion a détruit les bâtiments et les voitures garées le long de la route, a déclaré Aden Nour, un conducteur présent sur les lieux. L'explosion s'est produite près du poste de contrôle menant au périmètre fortifié de l'aéroport. Le maire adjoint de Mogadiscio, Ali Yare Ali, a déclaré qu'il avait survécu à cette attaque et qu'il y avait au moins 10 victimes. Le groupe djihadiste Al-Shabaab a revendiqué la responsabilité de l'attaque, affirmant qu'il visait un convoi escortant le gouvernement somalien et des responsables étrangers. Cet attentat intervient quelques jours après que les dirigeants somaliens ont conclu un accord pour achever en février les élections parlementaires, dont les retards répétés ont généré une profonde crise politique dans ce pays de la Corne de l'Afrique.
Au Mali, de nombreux voyageurs étrangers sont abandonnés à leur sort à la gare routière de Bamako depuis la fermeture des frontières. Suite à la proposition de transition de 5 ans du gouvernement malien, les pays de la CEDEAO ont imposé un embargo commercial au pays et fermé leurs frontières communes. Nathalie Barge.
Ces sanctions affectent de nombreux voyageurs du vaste pays sahélien frontalier avec cet autre pays. La plupart des voyages d'une des principales compagnies de transport, Africa Tour Trans, ont été annulés. Certaines compagnies continuent d'opérer en débarquant leurs passagers à quelques mètres de la frontière qu'ils traversent à pied pour prendre un autre bus de l'autre côté. La pandémie de Covid-19 a déjà causé la fermeture de plusieurs frontières terrestres dans la sous-région. Les transports routiers procèdent de cette manière à la frontière avec la Côte d'Ivoire, fermée depuis 2 ans en raison du coronavirus, indique un chauffeur de bus. Seules les routes vers la Mauritanie et l'Algérie, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, et la Guinée restent ouvertes. Suspendu de l'organisation après son propre coup d'État, la Guinée a décidé de laisser ouverte sa frontière avec le Mali.
Au Cameroun, le corps d'un sénateur de l'opposition, Henry Kemende, a été retrouvé aujourd'hui criblé de balles à Bamenda, une ville de l'ouest du Cameroun, région en proie à un sanglant conflit entre séparatistes armés anglophones et forces de sécurité. Avocat de profession, Henry Kemende était membre du Social Democratic Front, SDF, l'un des principaux partis de l'opposition. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege exhorte la France à s'impliquer dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles en RDC, jugeant que les autorités de son pays n'agissent pas assez contre ce fléau et que les criminels en poste dans l'appareil d'État étouffent la vérité. Le Nord et le Sud, Kivu, théâtre de violences depuis plus de 25 ans, restent l'épicentre des violences sexuelles contre lesquelles Denis Mukwege, 66 ans, tente inlassablement de mobiliser, estimant à 120 le nombre de groupes armés dans l'est du Congo. En Centrafrique, plus de 4800 personnes sont sans abri ou sinistrées au lendemain d'un incendie d'origine accidentelle qui a ravagé un camp de déplacés dans le sud-est du pays. 20 personnes ont été blessées dans l'incendie qui a détruit ce camp à Alindao, à quelques 500 km à l'est de la capitale Bangui, a précisé le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. L'incendie s'est déclaré après qu'un enfant a essayé de cuisiner avec de l'huile de palme, a déclaré Philomène Dunda, préfète de la région de la Basse-Côteau. En Afrique du Sud, 17 personnes sont mortes, dont 16 brûlées vives ce mardi après une collision d'un minibus avec un autre véhicule sur une route de la province du Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud. Les détails avec Nani Talani.
Le porte-parole du département régional des transports, Mike Maringa, rapporte que le minibus qui a pris feu avait 16 occupants. Pris au piège, ils ont été brûlés vifs. Le conducteur de l'autre véhicule a également été tué, portant le bilan à 17 morts. 8 personnes ont été blessées. Selon M. Maringa, le conducteur du SUV a perdu le contrôle de son véhicule après l'éclatement d'un pneu et il est entré en collision frontale avec le minibus de 22 places. Près de 1500 personnes ont été tuées sur les routes pendant les vacances de Noël, selon le ministère des Transports. L'état des véhicules et la conduite des chauffeurs sont souvent mis en cause. Bien qu'elle dispose de l'un des réseaux routiers les plus développés du continent, l'Afrique du Sud est un des plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.
Le Kenya fait face ce mercredi à une deuxième journée d'importantes coupures d'électricité après la chute la veille d'une ligne de transmission qui a plongé dans le noir la locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Ce pays d'environ 50 millions d'habitants a connu mardi près d'une journée entière sans électricité après l'effondrement de 4 pylônes électriques près de la capitale Nairobi, a affirmé l'entreprise publique Kenya Power. Dans la soirée mardi, Kenya Power avait assuré que le problème était réglé dans l'essentiel du pays, mais des problèmes sur une autre ligne de transmission ont causé une deuxième coupure ce mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 5,5 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Le variant Omicron est aujourd'hui la principale cause des nouvelles contaminations. Le point avec Abdourahman Dia.
Les États-Unis, pays le plus touché, vont accroître de 10 millions le nombre de tests de dépistage du COVID-19 à destination des écoles afin de pouvoir les garder ouvertes, a annoncé la Maison-Blanche. Environ 4% des écoles des États-Unis ont dû déjà fermer en raison de la vague de contamination. Malgré un nombre d'hospitalisations record, les États-Unis pourraient être au seuil d'une période de transition après laquelle il deviendra possible de vivre avec le virus, selon le docteur Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire. Le Québec s'apprête à durcir les mesures contre ceux qui refusent le vaccin en mettant en place une nouvelle taxe uniquement pour les non-vaccinés. Selon le premier ministre québécois François Legault, les 10% de Québécois qui n'ont reçu à ce jour aucune dose de vaccin ne doivent pas nuire aux 90% qui se sont fait vacciner. La Russie ne dispose que de 2 semaines avant d'être frappée à son tour par le variant Omicron, avertit le président Vladimir Poutine. Boris Johnson, le premier ministre britannique, a présenté ses excuses devant le Parlement. Il a reconnu avoir participé à une fête dans les jardins de Downing Street en plein confinement. Enfin, en Tunisie, le gouvernement a annoncé ce mercredi l'imposition d'un couvre-feu nocturne pendant au moins 2 semaines face à une reprise fulgurante de l'épidémie dans le pays.
Les États-Unis et leurs alliés européens ont engagé mercredi des discussions avec Moscou au siège de l'OTAN à Bruxelles pour tenter de désamorcer le risque d'un nouveau conflit en Ukraine, alors que la Russie n'a montré aucun signe d'apaisement à ce stade. Des différences majeures ont été constatées avec Moscou sur la sécurité en Europe, mais les pays de l'OTAN restent ouverts au dialogue, a affirmé pour sa part mercredi le chef de l'Alliance Atlantique à l'issue d'une réunion du Conseil OTAN-Russie à Bruxelles. La vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman représente les États-Unis à cette réunion. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À la gare de Beaumarchais à Dakar, capitale du Sénégal, les passagers qui voulaient se rendre au Mali ont exprimé leur colère suite aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Malgré la fermeture des frontières, de nombreux passagers avaient déjà pris leurs billets pour se rendre au Mali. Leur réaction dans ce reportage de Nama Diarra, notre correspondant à Dakar.
Mais les CEDEAO aussi ferment les frontières. Il y a des Maliens qui ont quitté l'autre pays, ils vont rentrer au Mali. Tu les laisses rentrer? Mais les Maliens ne rentrent pas au Mali. Maintenant, est-ce qu'ils vous donnent les nourritures des gens qui sont à la frontière? Ça, c'est pas normal.
Abdoulaye Maïga est un transporteur malien à la gare de Beaumarchais à Dakar. Il est vraiment en colère contre la CEDEAO. Beaucoup de ses passagers sont bloqués à la frontière entre le Sénégal et le Mali à cause des sanctions. En retour, le Mali a aussi fermé ses frontières avec les pays de la CEDEAO. Personne ne peut entrer au Sénégal et personne ne peut sortir du Mali. De nombreux bus sont bloqués à la gare de Beaumarchais avec des centaines de passagers, dont Souleymane Bellem, confortablement assis en attendant un départ incertain.
Moi, je suis burkinabé. J'ai mon parent au Burkina. Toi, tu dis que c'est pas la peine, je vais traverser le Mali pour aller au Burkina. Et mon parent qui sont au Burkina. C'est normal là, ça? Mali et Sénégal, là, c'est la même chose. S'il n'y a pas ton parent au Mali, il y a ta mère ici ou il y a ton père là-bas. Toi, tu dis que je reste chez mon père, je ne peux pas partir voir ma mère. Ça peut faire. Même les CDO qui sont parlés, qui ont sorti leur degré là. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Sinon, si quelqu'un qui a des parents, il ne doit pas dire ça même.
Samba, alias Fode Makalou, un passager sénégalais, abonde dans le même sens, tout en demandant des négociations avec le Mali au lieu de fermer les frontières.
Entre Mali et Sénégal, ça peut arriver, mais entre nous sommes des frères, ça, il ne fallait pas fermer entre les frontières, entre nous deux. On peut s'arranger, il ne fallait pas fermer, franchement. Moi, je suis origine malien, mes grands-parents, ça vient de Mali.
Les frontières là sont fermées à cause de la sanction de la CEDEAO et vous partez au Mali.
Il ne fallait pas fermer, il fallait négocier. Ça va déranger les Sénégalais, ça va déranger les Maliens. Il ne fallait pas ça fermer entre nous.
Le Malien Mohamed dit qu'on ne voyage pas, mais est venu accompagner son épouse qui devait partir au Mali. Il ne cache pas sa colère face à la fermeture des frontières.
Vraiment très mal, ça fait très mal. Aujourd'hui, même si je ne voyage pas comme ma famille est là, ils voyageront au Mali vraiment. On a des difficultés aujourd'hui peut-être de rentrer au Mali ou bien des Sénégalais. Les Maliens qui sont au Sénégal, ils rentrent au Sénégal aussi la même chose. Donc ils ne devraient pas fermer les frontières. Nous, on demande au président de la République du Sénégal, en tant que pays de la Teranga, de vraiment ouvrir la frontière entre ces deux pays.
Malgré la fermeture des frontières, les passagers et les transporteurs ont donc décidé de voyager entre le Mali et le Sénégal comme si rien n'était. La route est devenue bien toute fortueuse entre Kayes et Bamako. C'est comme un parcours du combattant que de vouloir traverser la frontière entre le Mali et le Sénégal. Nama Diarra, Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'exportation des produits guinéens vers les États-Unis est impactée depuis le 2 janvier. Le pays est exclu du programme AGOA pour non-respect des statuts de l'accord. Comment la Guinée vit cette situation? On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
C'est l'une des conséquences du changement anticonstitutionnel en Guinée. Les produits guinéens ne peuvent plus bénéficier de réduction de taxes à l'exportation vers les États-Unis. Cela aura un impact économique, nous explique Mohamed Kaloko, directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations.
Contrairement à l'AGOA, il y a un taux de franchise qui va être un peu plus élevé qu'AGOA, parce qu'AGOA, le taux de franchise est zéro. Le système généralisé, c'est à partir de 5%. Surtout le textile guinéen qui va être impacté. Et c'est un produit qui est très, très prisé sur le marché américain. Ça va être un taux de franchise d'au moins 35%. Donc vous comprendrez bien que ça a un impact.
Parmi les secteurs impactés, le textile local, Bintou Grovogui, teinturière, perdrait plus de 150 millions de francs guinéens, soit 1 600 $ sur chaque 6 mois.
AGOA a été une très grande opportunité pour beaucoup de pays, dont la Guinée. Dire aujourd'hui que nous sommes exclus, ça nous réduit beaucoup, beaucoup nos ventes, nos opportunités. Mais comme c'est la situation politique, on n'y peut rien. On s'y plie, mais bon, c'est à contre-cœur, quoi, puisque ça va impacter négativement nos affaires.
La Guinée exporte aussi d'autres produits ailleurs. Et pour l'économiste Mohamed Camara, la sortie de la Guinée de l'AGOA aura un faible impact économique.
Nos exportations sont essentiellement les produits miniers. Quand tu prends les produits agricoles et artisanaux, c'est moins de 4% des exportations de la Guinée. Et surtout, ces pays-là, ces produits ne sont pas surtout destinés aux États-Unis. L'impact n'est pas aussi grand si on prend en termes financiers, parce que ceux qui étaient éligibles au programme n'étaient pas aussi nombreux que cela. Les gros produits agricoles que nous exportons, comme le caoutchouc, le café et autres, ont d'autres clients.
La Guinée, grand pays exportateur de minerais, vend sa bauxite et son alumine aux pays de l'Asie, dont la Chine. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Dans les sociétés patriarcales comme au Burkina Faso, les épouses sont souvent blâmées en cas de problème dans le couple. Pour permettre une meilleure compréhension entre époux, un projet original financé par la Banque mondiale enseigne aux hommes comment être de meilleurs maris. Le reportage d'Henry Wilkins à Yako, dans la province de Pasoré, est relaté par Nathalie Barge.
Le chemin vers un mariage réussi n'est pas toujours facile, mais une initiative mise en place au Burkina Faso par le programme d'autonomisation des femmes du Sahel vise à le rendre moins difficile. Yele Wigo, qui est mariée à Kouama Zupoka, a fréquenté les écoles des maris organisées par Swed pour l'aider à devenir un meilleur époux.
Avant de suivre les cours, la vie de couple n'était pas facile. Je pensais autrefois que les femmes et les hommes n'avaient pas grand-chose en commun lorsqu'il s'agissait de problèmes de vie de famille. Mais après les cours, j'ai compris qu'ils peuvent se compléter et s'entraider.
Ces cours comprennent des jeux de rôle pour aider les hommes à comprendre les besoins de leur compagne et comment y répondre, par exemple aider aux travaux ménagers. Ils enseignent aussi les droits des femmes, la planification familiale, la santé et l'hygiène. Et les hommes sont encouragés à inclure les femmes dans la prise de décision familiale. La coordinatrice du projet de l'association pour la promotion de la femme et de l'enfant dans la région de Yako, Nabalou Bibata, dit que ces cours sont très utiles à la communauté.
Il y a des hommes même qui ont assisté à l'accouchement de leur femme. Et il y a aussi la prise en charge des soins des enfants. Et au sein du village, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer aux animations de l'école des maris, et les membres des écoles des maris sont devenus des modèles.
Des projets similaires ont déjà été mis en œuvre dans d'autres pays comme en Afrique du Sud et au Niger. Edouard Ouagéni, responsable de l'initiative He for She d'ONU Femmes, pense que ces cours peuvent contribuer à réduire les incidents de violence domestique.
C'est la reconnaissance que l'égalité des genres ne concerne pas seulement les femmes et les filles. L'égalité des genres concerne tout le monde.
Ces écoles des maris pourraient-elles être bénéfiques sur d'autres continents, notamment dans les pays occidentaux où l'égalité des genres est plus ancrée dans la société?
C'est une bonne idée qui peut être reproduite et même étendue dans d'autres parties du monde, y compris les pays qui estiment avoir fait beaucoup de gains.
Kouama Zupoka, agricultrice, souligne que les cours ont rendu son mari beaucoup plus avenant.
L'amour entre nous grandit. Maintenant, quand mon mari va au marché, il me rapporte des petits cadeaux, ce qu'il ne faisait pas avant. Alors, je suis très satisfaite.
Fort de son succès, le projet d'école pour les maris va être étendu à d'autres régions du Burkina Faso. La deuxième phase du programme devrait démarrer plus tard cette année.
Le président Joe Biden met la pression pour une législation visant à empêcher les États d'imposer des lois limitant l'accès au vote, estimant que le droit de vote est une valeur fondamentale de l'Amérique et qu'il doit être mieux protégé. Ses adversaires républicains veulent que les États soutiennent des mesures plus rigoureuses d'identification des électeurs et de sécurité des bulletins de vote afin d'éviter la fraude électorale. Un reportage d'Anita Powell de VOA depuis la Maison-Blanche. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Le président américain Joe Biden jette son dévolu sur une législation suscitant discorde et controverses qui permettraient d'accroître la surveillance fédérale en ce qui a trait aux élections, affirmant que les enjeux sont importants à la suite de l'élection présidentielle de 2020. S'exprimant à Atlanta mardi, il a présenté les deux projets de loi en termes crus.
What we choose? Democracy over autocracy.
Choisirons-nous la démocratie plutôt que l'autocratie, la lumière plutôt que les ombres, la justice plutôt que l'injustice? Je sais où je me situe. Je ne céderai pas. Je ne transigerai pas. Je défendrai le droit de vote de notre démocratie contre tous les ennemis extérieurs. Et oui, intérieur. Et la question est, quelle sera l'attitude de l'institution du Sénat des États-Unis?
L'année dernière, au moins 19 États ont adopté des lois restreignant l'accès au vote, selon le Brennan Center for Justice de l'Université de New York. M. Biden souhaite modifier la loi historique de 1965 sur le droit de vote en faisant valoir que le gouvernement fédéral devrait intervenir dans les États qui tentent de décourager les électeurs en droit de voter en rendant le vote trop contraignant, difficile ou déroutant. M. Biden a défendu son argument en Géorgie, l'un des quelques États où l'ancien président Donald Trump a affirmé que la fraude électorale a entraîné sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2020. Il n'y a aucune preuve pour étayer cette affirmation. Ce débat est urgent, dit-il, après que les accusations de fraude électorale de Trump ont déclenché une violente attaque au Capitole le 6 janvier 2021, alors que les partisans de Trump tentaient d'empêcher les législateurs à certifier la victoire de Biden. Mais selon John Fortier de l'American Enterprise Institute, ce sera une bataille difficile.
Il s'agit toujours d'un ensemble de changements assez larges qui s'appliqueraient partout à l'échelle nationale et qui supplanteraient les États. Et il y a beaucoup d'enthousiasme du côté des démocrates, en partie parce qu'ils croient en ces questions en général, mais aussi en raison du 6 janvier et d'autres choses qui les motivent à penser que ces changements sont nécessaires. Ceci étant dit, il n'y a aucun soutien du côté des républicains.
Les membres du Parti républicain s'opposent largement à la législation. Ils affirment que les républicains ne cherchaient pas à bloquer l'accès de quiconque au bureau de vote, mais plutôt à se protéger contre la fraude électorale. Mitch McConnell, chef de file des sénateurs républicains.
Il semble que le leader de la majorité soit déterminé à essayer de briser le Sénat. Son argument est que, d'une manière ou d'une autre, les législatures des États à travers le pays s'activent pour rendre plus difficile le vote des gens. Bien sûr, cela ne se passe nulle part en Amérique.
Les militants du droit de vote disent qu'ils voient des preuves évidentes de discrimination dans ces nouvelles lois électorales. Certains militants clés de la société civile ont décortiqué le discours de Biden, disant qu'il voulait des actions de la part du président, pas des mots. Et Rebecca Carthos est vice-présidente du centre qui milite pour la transparence des élections.
Ce que nous voyons aux États-Unis, c'est qu'on nous dit que tout le monde n'a pas le même droit de vote, en particulier les jeunes, en particulier ceux qui sont handicapés, en particulier les communautés de couleur, les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, les Amérindiens, les Autochtones. On leur dit que leur droit de vote n'a pas autant d'importance, ainsi que ceux qui ont immigré dans notre pays et qui sont devenus des citoyens naturalisés.
Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s'est engagé à soumettre la proposition de loi à un vote avant la semaine prochaine.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.